moi je suis Marie Pascal, je fais partie de RESF. Le réseau Éducation sans frontières existe depuis maintenant 9 ans et réunit des enseignants, des parents d'élèves, des syndicats, des associations, des organisations telles que la LDH, par exemple, et pour soutenir les enfants de familles scolarisées dont les familles sont sans papier. Françoise, Pascal, si vous avez des choses à rajouter.
Oui, en fait, RESF est né parce que dans les écoles, il y avait des enfants dont les familles n'avaient pas de papier. Et on a bien vu que ça posait un problème, bien évidemment, à ces enfants qui vivaient dans une précarité, une angoisse absolument insupportable, quoi. Ce qui, entre autres, les empêchait d'apprendre correctement. Donc, le point de vue enseignant, voilà, il se glisse là. Et donc, on a mis en place ce réseau. Il y a eu des membres fondateurs, comme l'a dit Marie Pascal, des syndicats enseignants, la FCPE aussi, et d'autres associations qui s'occupent des droits de l'homme ou autres. Et on essaye de mettre en place des actions militantes pour soutenir ces familles de façon à ce qu'elles soient régularisées et pas expulsées, de façon à ce que les enfants puissent avoir des conditions un peu plus confortables et plus dignes pour vivre en France. On soutient aussi les jeunes majeurs, les lycéens qui deviennent majeurs, qui sont parfois isolés et qui, le jour de leurs 18 ans, paf, basculent dans l'illégalité, puisque tant qu'on est mineur, il n'y a pas de problème de papier. Ce sont les majeurs qui ont des problèmes de papier. Donc, dans les cas qu'on soutient, il y a aussi des jeunes majeurs.
Pour préciser, donc, le réseau Éducation sans frontières existe sur toute la France. Donc il y a un réseau dans les grandes villes en général, donc il y a beaucoup d'antennes, on peut dire. On n'est pas tout à fait organisé en association, c'est un réseau, c'est-à-dire qu'il y a des organisations, on l'a dit tout à l'heure, mais il y a aussi beaucoup de parents d'élèves qui ne sont pas forcément syndiqués, pas forcément militants politiques, ou des citoyens lambda qui s'engagent dans la lutte pour les sans-papiers.
Qu'est-ce qui différencie le réseau et l'association ?
Ce qui différencie le réseau, c'est que justement, c'est une mise en réseau de différents intervenants, de différentes entités, de différentes organisations et de différentes personnes. Une association est une entité en tant que telle. Un réseau réunit des associations et différents types d'organisations et de personnes, comme le rappelait Pascal. Il y a aussi des citoyens lambda, des parents d'élèves, des gens qui ne sont pas politisés, des gens qui sont un peu plus politisés. Et tous ces gens se rencontrent et unissent leurs efforts pour, dans la lutte que l'on soutient. Donc.
Oui, le réseau Éducation sans frontières est constitué de gens un peu permanents, entre guillemets, je veux dire qu'ils sont là régulièrement, mais aussi des collectifs d'écoles, hein, c'est-à-dire dans les écoles où il y a des cas, les gens, les enseignants, les parents d'élèves se mobilisent brusquement parce qu'un cas tout d'un coup apparaît, enfin, ou se révèle dans une école. Et c'est l'ensemble de ces collectifs aussi qui fait vivre le réseau, c'est-à-dire que dans ces moments-là, eh bien, ces collectifs d'écoles sont présents, proposent des rassemblements ou des choses comme ça devant leurs écoles, des pétitions et toutes ces choses-là. Et le réseau Éducation sans frontières, il est vivant de ça, de ces diverses écoles où tout d'un coup des cas émergent, se font jour et donc poussent les gens à s'engager par rapport à ça.
Alors Radio Caravane vous a interviewé l'an passé. Entre-temps, le gouvernement s'est mis en place. Y a-t-il eu des répercussions dans vos actions ?
Dans nos actions, la répercussion, c'est qu'on est toujours là. Parce que globalement, on peut dire que les choses n'ont pas beaucoup changé. Il y a eu quelques avancées, l'abandon notamment du délit de solidarité, c'est-à-dire qu'auparavant, sous le gouvernement précédent, l'aide aux sans-papiers, de militants, de personnes auprès de sans-papiers, pouvait être punie de 300 000 euros d'amende et de 5 ans d'emprisonnement. Ça a été abandonné. L'aide médicale État, qui est cette aide médicale à laquelle ont droit les personnes qui n'ont pas accès à la CMU, était payante sous le gouvernement précédent. Et ceci a été abandonné. Ça, c'est quelques avancées. Après, c'est quand même des avancées qu'on peut signaler, qui sont quand même importantes. Hein. Après, moi, je peux apporter le témoignage suivant. Hier, j'étais à la projection du film, du documentaire de Neo Ziala, Contre les murs, qui est projeté à l'ABC, que je recommande d'aller voir, qui est très intéressant, sur la campagne que Migre Europe, qui est une association, elle, européenne, a menée contre les centres de rétention. Et donc, à cette projection, une élue PS assistait. Et bon, donc, elle a été effectivement interrogée, interpellée un petit peu sur ce qui avait changé. Donc, elle a mis en avant le fait que, notamment, cette aide médicale État n'était plus payante et que c'était à l'issue d'une grosse lutte au sein de l'hémicycle, des heures de discussion contre la droite, etc. Et tout de suite après, elle a dit, mais de toute façon, il ne faut pas être dans la béatitude de Béate, les centres de rétention ont leur utilité. Donc je pense bien que ça résume bien la position du gouvernement actuel. On va aménager les choses, ils vont faire des mesures qui vont un petit peu faciliter certaines choses, mais sur le fond, ce n'est pas la politique de changement radical concernant la politique d'immigration que nous préférerions appeler peut-être politique d'hospitalité, mais bon, c'est un autre débat. Nous sommes à jeun de ce changement radical que nous attendons et que nous appelons de nos voeux et que d'autres organisations, côté de RESF, appellent de leurs voeux.
Oui, en fait, dans le changement qui était prévu, annoncé, il y a eu une circulaire. Val, ça fait une circulaire au mois de novembre, je crois. Alors, le problème de cette circulaire, c'est que d'une part, une circulaire n'a pas force de loi. Autrement dit, on est toujours sur le régime de la loi Besson, qu'on avait appelé loi de la honte en son temps, qui durcissait énormément les conditions de rétention, d'arrestation, d'expulsion, etc. Donc, en fait, cette loi n'est pas abrogée du tout, ce qui aurait été un beau geste. Donc Valls a fait une circulaire pour, entre autres, régulariser certains sans-papiers avec certains critères. Ça rappelle la circulaire Sarkozy, d'ailleurs, que Sarkozy avait fait en 2006. Donc là, il n'y a pas de quota, apparemment, d'expulsion en ce moment. Mais de fait, il y a toujours autant d'expulsions dans l'année. Sarkozy a annoncé 29 000, 30 000 chaque année. Là, ils n'annoncent pas ça, mais ils continuent à le faire. Donc cette loi Besson est toujours là, toujours présente. Et la circulaire Valls, elle permet peut-être à des gens d'être régularisés, mais il y en a plein d'autres qui ne le sont pas. De toute façon, elle est très restrictive. Bon, donc c'est pas du tout ce que nous souhaitions pour les sans-papiers. Quoi. On considère que le regard sur l'étranger n'a pas changé. L'étranger est toujours quelqu'un qui vient nous envahir, qui est dangereux, qui nous menace, qui va nous prendre je sais pas quoi. Et ça, le gouvernement actuel n'a pas changé cette vision-là de l'étranger. Et c'est pas possible.
Pour prendre un exemple par rapport à ce que vient de dire Françoise, dans les préfectures où on aurait pu imaginer que les fonctionnaires et entendu au moins en interne un nouveau discours, les sans-papiers sont toujours reçus de façon absolument abominable. Donc ça, c'est pas tout à fait normal. Et c'est vrai que certains élus, ou que certains candidats socialistes s'étaient engagés pour les sans-papiers avant les élections. Et c'est vrai que depuis les élections, soit ils sont en minorité, soit on les entend moins, mais c'est vrai que le gouvernement n'a pas changé la politique qui se pratiquait sous Sarkozy.
Et pour donner un dernier exemple en date, ça s'est passé à Nîmes il y a quelques jours, quelques semaines de ça. La police est encore allée chercher des enfants dans une école. La mère avait été arrêtée et mise en centre de rétention. Et la police est venue chercher les enfants dans l'école. Ils ne les ont pas trouvés puisque le directeur a fait partir les enfants. Mais on assiste encore à des choses de ce genre sous le gouvernement actuel, qui étaient peut-être plus fréquentes sous le gouvernement précédent, mais l'avenir nous dira si c'est un cas isolé ou ça va être amené à se reproduire.
En quoi consistent vos actions et comment venez-vous en aide aux personnes que vous accompagnez ?
Alors, nous soutenons la création de comités locaux dans les écoles, puisque RESF est à l'origine a été créé par des enseignants. Monté par des enseignants et des parents d'élèves. Donc on soutient la formation de comités locaux qui interviennent directement auprès des familles qui sont sans papiers, privées de papiers. Ces comités locaux montent des pétitions, écrivent des pétitions pour les mettre à la signature, organisent des rassemblements devant les écoles, des petits déjeuners par exemple, voilà, pour sensibiliser le maximum de personnes au cas de familles d'enfants sans papier. Le rôle du réseau Éducation sans frontières est de collectiviser toutes ces initiatives. On ne nous soutient pas un comité de soutien en particulier, ni une famille en particulier. Notre rôle est de collectiviser toutes ces actions et d'organiser des rassemblements ou de soutien à tous les cas qui sont portés à notre connaissance, de rencontrer la préfecture, de faire pression sur la préfecture pour toutes les cas que nous avons recensés, et de placer avant tout, à la fois sur, il y a le côté humanitaire, humain, mais aussi l'aspect politique qui est primordial pour nous. On ne régularise pas au coup par coup telle personne ou telle personne. On se bat pour une politique de régularisation de ces personnes et de ces familles. Nous organisons aussi des parrainages, soit avec des élus, soit avec des militants. Ce sont des parrainages républicains. qui ont surtout une valeur symbolique, mais qui ont aussi pour effet de soutenir les familles au plus près, qu'elles se sentent entourées, qu'elles se sentent soutenues, car elles ont besoin d'être accompagnées dans leur démarche, elles ont besoin qu'on les accompagne pour aller à la préfecture. Très difficile d'aller seule à la préfecture et dangereux d'aller seule à la préfecture. Voilà, nous organisons des événements comme le loto d'aujourd'hui avec le soutien de la grainerie, hein, que nous saluons sur cette antenne.
Le soutien de la grainerie et de Culture en Mouvement, je précise.
Merci. Nous organisons également au mois de décembre un goûter de Noël avec le soutien du Bikini.
D'accord. Alors on reviendra sur ces actions et notamment l'action du loto d'aujourd'hui dans des questions suivantes. Quelles sont les difficultés que vous pouvez rencontrer dans ces actions et les victoires que vous avez rencontrées ?
Bon, ben, les victoires qu'on rencontre, c'est chaque fois qu'il y a des gens régularisés. Pour nous, c'est extrêmement réjouissant, réconfortant. Il faut préciser quand même qu'une régularisation, ça ne veut pas du tout dire « ça y est, monsieur, madame, vous êtes en France, vous y restez, vous avez les papiers pour toujours, vous restez avec nous ». Ça veut dire qu'ils ont une carte de séjour de 3 mois, de 1 an, et que 3 mois après, ils recommencent les démarches pour avoir la carte de séjour suivante, etc. Voilà, donc ça, ce sont des petites victoires qui nous font beaucoup de bien. En même temps, les difficultés, c'est que ça arrive très rarement, qu'on se heurte vraiment à une administration vachement difficile à toucher, à convaincre. Donc, politiquement, vu le fait que la loi Besson n'a pas été abrogée, etc., c'est vraiment une grande difficulté. Ça veut dire que les gens du PS, pour ne pas les nommer, qui étaient à nos côtés dans la mandature présidentielle précédente, maintenant, ils sont vachement plus discrets pour nous soutenir, quoi. Donc, c'est une difficulté. Voilà, après c'est une usure au quotidien, c'est-à-dire que les gens qui dans leurs écoles ont des familles en difficulté, des gens, ça m'est arrivé dans mon école récemment, une famille, une femme seule avec 2 enfants, pas de logement, pas d'argent, pas de travail, c'est quand même, ils mangent pas à leur faim, quoi, c'est épouvantable, on voit cette femme qui a rien à leur donner à manger et tout, bon ça c'est... Humainement, c'est extrêmement difficile, quoi. Donc c'est très important de le voir, comme disait Marie-Pascale, sous l'angle du politique et de dire qu'on se bat pour un changement de loi et non pas pour que Madame Machin soit régularisée et Monsieur Truc aussi. Il faut vraiment avoir un regard global et combatif, sinon c'est très très dur humainement, quoi.
Les petites victoires aussi, c'est quand des gens ne sont pas expulsés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore de papier, même provisoire, mais au moins le fait qu'il y ait une masse autour de citoyens et de militants politiques avec des médiatisations font que ils sont pas expulsés, ils sont pas arrêtés, donc c'est déjà une petite victoire, c'est-à-dire qu'ils peuvent rester en France dans des conditions un peu moins pires.
Une autre action que nous menons, c'est d'assister aux audiences au tribunal, notamment au tribunal administratif, où nous appelons les militants, les personnes en soutien à venir à être présent dans la salle d'audience, parce que c'est pas rien de dire que la justice s'exerce sous le regard des citoyens. C'est pas rien non plus pour la personne qui passe en audience d'être soutenue, de voir qu'elle est soutenue, accompagnée. Je vais apporter un petit témoignage personnel. Je me souviens d'une audience où j'étais allée, où nous étions venus pour soutenir une famille. Parce qu'il faut savoir que dans une audience, il y a plusieurs cas qui passent comme ça, rapidement, paf, paf. C'est un petit peu l'abattage. Hein.
L'abattage.
L'abattage. Et donc, le cas de la famille avait été passé. Et les militants, avec les autres militants, nous sommes restés. Il y avait un monsieur tout seul, qui n'était pas une famille, c'était un monsieur sans papier, donc, qui passait ensuite, et nous sommes restés. Et je me souviens qu'il s'est retourné, qu'il nous a regardés, qu'il avait l'air vraiment soulagé de voir que des gens étaient là et il nous adressait un remerciement avec le regard. Voilà, c'est important de montrer que on est là, que ça se fait pas dans l'ombre, qu'on est là et qu'on voit et qu'on témoigne de ce qu'on voit et de ce qui se passe.
Tout à l'heure, vous nous parliez de Culture en Mouvement et de la grainerie. Comment les avez-vous rencontrés ? Comment vous êtes venu à travailler avec eux ?
En fait, c'est la grainerie qui est venue vers nous en proposant de faire ce loto de soutien. Il y avait déjà, comme l'a dit Marie-Pascale, le goûter du Bikini qui était en cours depuis plusieurs années. On fait ce goûter au Bikini. Et donc là, dans le même esprit, quoi, les gens de la grainerie et Culture en Mouvement ont proposé de faire ça en soutien. Nous, on s'est engouffrés là-dedans parce que d'abord, on passe un moment très, très drôle et sympathique. Hein, vous le verrez tout à l'heure si vous ne l'avez pas déjà vu l'année dernière. Et puis, ça met en lumière notre lutte. Ça nous ramène un peu d'argent aussi pour pouvoir militer. Il y a des choses qui coûtent de l'argent aussi. Voilà, donc nous, on trouve voilà, c'est l'initiative de la grainerie et de Culture en Mouvement au départ. Quoi.
Pourquoi un loto ?
C'est un loto particulier, c'est un loto dans l'esprit artistique, c'est-à-dire qu'il y a tout un entourage. Bon, évidemment, on connaît tous les lotos très très... Enfin, que moi, personnellement, je n'aime pas. Là, on écoute bien tous les numéros, on pense le grain de riz et tout ça. Il faut se taire, sinon on rate un numéro. Bon, c'est pas tout ça ici l'esprit, quoi. Ici, l'esprit, c'est qu'on rigole. Les lots, c'est des lots vivants, donc même quand c'est des lots pas vivants, hein, si c'est des livres ou des CD ou autre, ben c'est transporté par des gens qui font les artistes, là, qui amènent ça à l'heureux gagnant avec des tas de pirouettes et de mimiques, etc. Et ça rend ça très, très, très drôle et très amusant. C'est finalement le moment qu'on vit qui est bien plus important que le fait de gagner une place de spectacle ou je ne sais quoi. Voilà, donc c'est orienté vers le culturel, hein, c'est des livres, des CD, des places de spectacle, des choses comme ça. Donc on est soutenu par plein de commerçants, d'associations, etc., qui nous donnent des lots. Et c'est vraiment un moment qui est en même temps très artistique, quoi. Et c'est vrai que dans le monde du cirque, puisqu'à la grainerie, il y a plein de gens qui font du cirque, hein, ben, les artistes aussi sont très embêtés par rapport au papier. C'est-à-dire qu'ils veulent circuler, aller jouer dans divers pays. Et c'est compliqué pour eux aussi de pouvoir séjourner là où ils veulent travailler. Donc il y a cette solidarité-là, quoi, hein, qui se met, voilà, qu'on met en évidence à travers ce loto.
Comment on peut vous soutenir ? Pour vos actions, ou même, je veux dire, rejoindre votre association, mais comment peut-on participer à ça ?
Alors, il y a plein de façons. Donc, il y a, bon, d'une part, vous pouvez vous inscrire sur une liste de diffusion qu'on a, hein, sur laquelle on fait passer les comptes rendus de réunion, les rendez-vous, les mobilisations, les manifestations, bon, des choses comme ça. Donc, pour s'inscrire sur cette liste de diffusion, il suffit d'envoyer un mail en demandant à être inscrit sur la grande liste. Et le mail, il faut l'envoyer à resf31@abri31.org. Bon, l'adresse, elle est partout. Hein, vous tapez Réseau Éducation Sans Frontières, vous trouverez ça. Ça, c'est une première chose. Après, vous pouvez venir aux réunions, bien évidemment. Vous recevez les comptes rendus de réunion avec les dates des prochaines réunions, logiquement, en étant inscrit comme ça sur la grande liste. Après, c'est le soutien au cas par cas dans les écoles, éventuellement, dans votre proximité, autour de vous. C'est sûr qu'il y a des gens qui n'ont pas de papier. Si vous avez des enfants dans votre école, il est très possible qu'il y en ait. Donc voilà, en s'intéressant à ça, en soutenant le côté immédiat et concret dans l'école, et puis plus globalement dans les mobilisations, dans les manifestations, dans les rassemblements, les choses comme ça. Voilà. Et puis en parlant autour de vous, quoi. Moi, je pense qu'il faut absolument avoir un discours de générosité, d'ouverture, d'hospitalité. Et ça, je pense que tout le monde peut l'avoir. Et ça ne concerne d'ailleurs pas que les familles d'enfants sans papier. Familles sans papier, d'enfants, voilà. Ça concerne aussi tous les sans-papiers, célibataires, travailleurs, et retraités éventuellement, puisqu'il y a aussi ce problème-là. Enfin, voilà. Donc, je pense qu'il y a aussi le discours qu'on peut porter, nous, dans notre entourage, quoi.
Il faut préciser que, on n'a pas parlé, mais on travaille beaucoup en partenariat avec la CIMAD, qui est une association qui intervient auprès des personnes en demande de papier, puis qui fait un accompagnement juridique auprès de ces personnes, de conseils, qui les aident à constituer leur dossier, qui les aident à trouver un avocat. Voilà, et c'est eux qui reçoivent, donc c'est leur local qui reçoit nos réunions quand on se réunit. On travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup avec eux.
Et il me semble aussi que la CIMAD, ils ont un rôle de regard dans les centres fermés et compagnie, c'est ça ? Ils font ça aussi ?
Dans les centres de rétention, oui. Dans le sud-ouest, oui, dans tous les centres de rétention, il y a une association qui est censée, qui peut aider, soutenir et préparer la défense de tous les gens retenus. Et il se trouve que dans le sud-ouest, c'est la CIMAD qui a eu ce marché, puisque malheureusement c'est passé avec des appels d'offres, etc. Pour Toulouse et sa région, c'est la CIMAD qui l'est. Donc ça veut dire qu'il y a une antenne de la CIMAD au centre de rétention, ce qui est effectivement précieux, parce que la CIMAD, ils ne font pas que dire leurs droits aux étrangers. Ils les soutiennent, ils sont combatifs, ils sont en lien avec nous. Donc c'est extrêmement précieux pour tous les retenus d'avoir des gens comme ça qui vraiment les soutiennent d'une façon dynamique, on va dire, quoi.
Merci mesdames. Un petit rappel sur vos dates importantes avant de partir. Le loto le goûter pour Noël, notamment, et le film à l'ABC.
Alors le film de Neuziala est programmé actuellement à l'ABC. Moi je l'ai vu hier. Alors vous donnez les dates de diffusion précises, j'ai pas le programme en tête, mais vous pouvez aller le voir. Actuellement on n'a pas d'événements précis en cours, hein, à annoncer. La date du goûter de Noël n'est pas encore arrêtée, hein. En général, on l'arrête en début d'année.
Pour avoir des infos, vous pouvez aussi aller sur le site internet RESF31.
Nous vous remercions et très bon loto.
Avec plaisir.
Merci de nous avoir reçus. Tu vas apprendre, c'est merveilleux le bouquet.
Bouleg, c'est... Fais mélanger, que ce soit pas toujours le même numéro qui sorte. Bouleg.